Radio Kapi. Oh, Kapi.
Après des violents combats ayant opposé l'armée au groupe rebelle M23 en début de semaine, ce dernier déclare un cessez-le-feu unilatéral sur les lignes de front du groupement Djomba en territoire de Rutshuru, Nord Kivu. Le gouvernement congolais n'a pas réagi à cette déclaration. Trouble hier à la prison centrale de Kindu. Les détenus ont manifesté pour réclamer l'évacuation de l'un des leurs gravement malade. Notre invité, c'est le docteur Olive Abamboula, présidente de l'association des femmes médecins œuvrant au Maniema. Elle nous parlera du bilan des activités de son association durant le mois de la femme. Bonjour à tous. Le M23 décrète un cessez-le-feu unilatéral sur les lignes de front du groupement Djomba en territoire de Rutshuru au Nord Kivu. C'est dans une déclaration datée du 1er avril et cela après des violents combats qui ont opposé l'armée régulière à ces groupes rebelles en début de semaine. Combats qui ont occasionné plusieurs pertes en vies humaines. Des milliers de civils ont également fui leurs habitations pour se mettre à l'abri des combats jusqu'en Ouganda voisin. Jusque-là, le gouvernement congolais n'a pas réagi à cette déclaration. Notez que durant ces accrochages, un hélicoptère de la MONUSCO a été abattu dans la zone de combat de Tchanzu, au territoire de Rutshuru, le mardi 29 mars. Ce samedi après-midi à Goma, un hommage leur sera rendu à Goma, au Nord Kivu. Dans sa déclaration également, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est dit profondément préoccupé par le crash de l'hélicoptère ONU et demander au gouvernement d'initier une enquête. À quelques heures du début de la cérémonie, Rosalie Zawadi nous présente le site où vont se dérouler ces hommages solennels.
Cette cérémonie solennelle va se dérouler à l'hélipad du site Lava, l'une des bases de la MONUSCO à Goma. Sur les sites, deux tentes sont érigées. D'un côté seront les officiels et de l'autre les corps de ces héros qui ont payé les prix forts pour le retour de la paix en RDC. L'arrangement de la tente où seront exposés les corps ainsi que les gerbes et des fleurs préparées pour la circonstance fait peser une atmosphère empreinte de tristesse, de compassion et de recueillement sur les lieux. Du côté de la MONUSCO, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, avec ses deux adjoints, participeront à la cérémonie. Les hautes autorités militaires de l'armée congolaise sont annoncées, ainsi que les gouverneurs de province, les lieutenants-général Constant Dima. Les membres du gouvernement central présents à Goma viendront aussi honorer ces héros. Pour être plus complet, rappelons que les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leurs plus sincères condoléances aux familles des victimes, au Pakistan, à la Fédération des Russies et à la République des Serbies ainsi qu'aux Nations Unies. Ils ont condamné dans les termes les plus fermes toutes les attaques et provocations contre la MONUSCO. Ils ont souligné que les attaques délibérées visant les soldats de la paix peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international. Goma, Rosalie Zawadi. Radio Kapi.
En Ituri, plus de 150 personnes ont été tuées et 38 autres enlevées au mois de mars dernier dans les territoires de Djougou. Ce bilan a été publié hier vendredi par des sources de sécurité et de la société civile de cette entité territoriale. Pendant cette période, les FARDC ont neutralisé 47 miliciens de la CODECO et 23 autres capturés et une trentaine d'autres blessés. Du côté de l'armée, il y a une dizaine de morts et 8 blessés lors de combats entre les FARDC et la milice CODECO dans la zone qui a également connu de nombreuses violations de droits de l'homme dans la région. Isaac Raymond.
Selon des sources concordantes, les exactions des groupes armés, dont la milice CODECO, se poursuivent en Ituri. Et cela malgré le régime de l'état de siège avec l'intensification des opérations militaires dans cette province. Des sources de sécurité de la société civile déplorent 99 cas de meurtres des civils au mois de mars par les miliciens de la CODECO, 38 personnes kidnappées et 35 autres blessées. Ce groupe armé a fait 90 incursions au cours desquelles environ une centaine de maisons a été incendiée et plus de 400 cas d'extorsion des biens de la population enregistrés. Pendant cette période, les FARDC ont lancé des opérations militaires contre les positions de ces groupes armés dans plusieurs entités du territoire des Djougou. Les bilans avancés par des sources de sécurité des 47 miliciens de la CODECO et des autres du groupe d'autodéfense Zaïre neutralisé, 32 autres blessés et 23 capturés. Du côté de l'armée, il y aurait 15 morts et 8 blessés. Selon la société civile, ce tableau est sombre et nécessite des opérations de grande envergure des FARDC pour démanteler les groupes armés en Ituri. Pour les porte-parole des FARDC dans cette province, les efforts de l'armée sont visibles et qu'elle reste déterminée pour imposer la paix en Ituri. Le lieutenant Gilles Ngongo.
Il y a eu des tueries, mais jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à protéger des milliers de la population sur toute l'étendue de la province. Notre effet final recherché, c'est que la population regagne leurs milliers et que les écoles soient ouvertes par tous.
Bounia, Isakare Moyope, Radio Okapi.
Le député national Jado Mangwengui salue l'arrestation cette semaine en Ituri d'une filière des présumés vendeurs des munitions, parmi lesquels des hauts gradés de l'armée et des civils. L'élu de Beni demande au gouvernement de doter les services de renseignement de moyens adéquats pour démanteler tous les réseaux mafieux qui entretiennent l'insécurité en Ituri et au Nord Kivu. On écoute le député Jado Mangwengui, joint par Alain Rung.
Je félicite et encourage les services de sécurité militaire qui ont réussi à mettre la main sur un groupe d'officiers FARDC et militaires des rangs en Ituri qui seraient en train de vendre des munitions de guerre aux miliciens et aux groupes armés. Mais aussi j'en profite de demander au gouvernement de pouvoir renforcer les capacités financières et logistiques de nos services de renseignement militaire et civil de manière qu'ils soient à mesure de bien travailler afin de mettre la main sur tout le traître et au niveau de l'armée et au niveau de la population. Nous sommes une grande nation, ça ne serait pas les ADF, CODECO et consorts qui nous feraient marcher jusqu'à ce niveau. Enfin, on est en train de comprendre le pourquoi. Donc, un grand travail doit être fait et au niveau de l'armée et au niveau de nos populations.
Plusieurs barrières illégales où des populations sont tracassées quotidiennement, signalées sur plusieurs routes des territoires de Beni et Lubero. Cette alerte est contenue dans une déclaration rendue publique jeudi par le club Maïa Windi, une structure de défense des droits de l'homme. La déclaration est adressée aux autorités et représentants du peuple. Explication Grévis Saloum.
D'après cette déclaration du club Maïa Windi, à ses postes barrières, des frais de passage sont prélevés indûment auprès des usagers, la plupart du temps par des militaires. Maître Kambale Maïa Windi Vivien, responsable de cette structure, révèle que ce travail de monitoring a été élaboré suite à des cris de détresse des usagers des routes nationales et celles des dessertes agricoles. Ainsi, ils appellent les autorités à prendre les dispositions qui s'imposent pour mettre un terme à cette situation qui paupérise la population déjà victime des affres de la guerre. Ici, les témoignages des conducteurs mototaxi fréquentant différents tronçons routiers dans les territoires de Beni et Lubero.
La tracasserie a vraiment battu les records parce qu'à l'intervalle de 10 km, on peut facilement croiser 2 à 3 barrières. Ce sont généralement les militaires et policiers. Si tu n'es pas fort, tu peux facilement dépasser environ 4000 francs. Que les autorités nous aident vraiment pour que ça finisse.
Contactez le porte-parole des opérations Sokola 1 en s'insurgeant contre le mode opératoire de certaines organisations qui élaborent des rapports sans s'en référer aux autorités militaires. Le capitaine Anthony Malouchai appelle ces organisations à avoir cette culture d'alerter les autorités afin de leur permettre de faire le suivi sur terrain puis de procéder aux sanctions de ceux qui sont indexés si c'est le cas. Boutebo, Grévis Saloumou, Radio Okapi.
Rendons-nous au sud de Kivu, où les acteurs de la société civile, les leaders communautaires et religieux ont été capacités sur les stratégies de lutte contre les discours de haine et incitation à la haine tribale. C'était hier vendredi au cours d'un atelier organisé par la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement en collaboration avec le BCNUDH et la MONUSCO. Cette activité a eu lieu à l'hôtel Monkauzi de Bukavu. Rachel Kiesembangu nous fait le point.
Contribuer à réduire la montée des tensions communautaires pour prévenir les dérapages éventuels, tel est l'objectif principal de cet atelier. La DICODE RDC, plateforme des organisations de la société civile, attend de ses acteurs sociaux une prise de conscience sur leur rôle à jouer dans la lutte contre les discours et messages de haine et d'incitation à la haine tribale. Maître Patient Bachombe, coordinateur de la DICODE RDC.
C'était très très important d'organiser pareil atelier au Sud Kivu au regard de la montée des discours de haine.
Nous avons préféré mettre en place une dynamique communautaire qui tient en compte les préoccupations communautaires à la base.
Les acteurs de la société civile s'approprient ces acquis afin de jouer pleinement leur rôle dans la communauté. Maurice Mirindi.
Au regard des réalités de notre milieu, le Sud Kivu, tout ce qu'il y a comme discrimination et bien d'autres, on est en train de voir comment on va aussi ajouter nos recommandations pour qu'on retravaille davantage et qu'on perfectionne en fait la proposition. Nous pourrons à notre niveau voir comment dans nos différentes activités, nous pourrons également revenir sur les acquis de cet atelier.
Un observateur de la cohésion sociale a été mise en place en province à l'issue de cet atelier. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Face à la précarité de la vie des populations dans la province de la Lomami, le sénateur de cette juridiction, Hippolyte Mutombo-Mbwebwe, invite l'Assemblée provinciale à diligenter des investigations quant à la gestion financière de Lomami. Pour ce parlementaire, en cette période où se préparent les élections pour le remplacement du gouverneur intérimaire, il s'avère nécessaire de clarifier la traçabilité des fonds mis à disposition de ce dernier. Devant les médias hier à Kinshasa, Hippolyte Mutombo alerte sur la gestion de 500 000 dollars comme intervention spéciale du chef de l'État en faveur des projets de développement de la Lomami. Hippolyte Mutombo-Mbwebwe s'exprime au micro de Billy Van Lutumba.
Je félicite et remercie le chef de l'État qui avait pris l'initiative d'appeler tous les députés provinciaux ici à Kinshasa et ils ont pu assister à un atelier d'imprégnation mais également d'appropriation de son programme de développement à la base de 145 territoires. Et dans ce cadre, nous invitons particulièrement ces provinces dont l'élection de gouverneur sera très bientôt organisée, dont Lomami, qu'il y ait un audit des fonds du Trésor pour éviter qu'il y ait des injustifiés laissés par les gouverneurs qui assurent les intérims dans ces provinces aujourd'hui. Un coup d'œil sur les 500 000 dollars déclarés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a dit que le chef de l'État a octroyé aux provinces 500 000 dollars pour des projets de développement des provinces. Cet argent n'est pas traçable pour la province de Lomami. Nous demandons à l'Assemblée provinciale de faire des investigations détaillées quant à ce et tracer ce montant. Si on n'arrive pas à les tracer, il serait inadmissible aujourd'hui que face à la misère que traverse notre population aujourd'hui, 500 000 dollars, ça peut aménager 5 écoles ou ça peut encore aider dans les 4 projets agricoles. Nous n'accepterons pas que face à la misère noire qu'endure notre population aujourd'hui dans la province de Lomami, et le gouverneur intérimaire puisse, avec son exécutif, détourner les 500 000 dollars envoyés par le gouvernement central.
Tout en reconnaissant la précarité de la vie de sa population, Edouard Moulumba, gouverneur intérimaire de la Lomami, précise qu'il n'a jamais reçu une quelconque somme de 500 000 dollars et demande aux sénateurs de s'investir pour retracer ces fonds qui devront, s'ils sont tracés, aider à relever tant soit peu la vie de la province. Dans la province du Maniema, trouble à la prison centrale de Kindu hier vendredi, où les détenus manifestaient pour réclamer l'évacuation de l'un de leurs qui est gravement malade. La même situation a été enregistrée à la prison centrale de Kasongo après la mort d'un détenu, faute des soins médicaux. La société civile demande aux autorités d'assurer la prise en charge alimentaire et médicale des prisonniers pour éviter ces genres de troubles. Florence Kizalunga, reportage.
Cette vive tension est survenue ce vendredi avant midi dans la prison centrale de Kindu. Une tension qui a poussé les policiers commis à la garde de la prison à tirer plusieurs coups de balles de sommation afin de calmer les prisonniers. Ensuite, s'en est suivi un jeu de pierres entre les prisonniers et les forces de l'ordre. Les prisonniers n'ont pas apprécié le fait que l'un de leurs, qui souffre gravement, ne soit évacué pour suivre des soins appropriés dans un hôpital. Une situation similaire s'était produite dans la semaine dans la prison de Kasongo. Maître Saloum Loutipa, coordonnateur territorial de la nouvelle société civile, revient sur ces événements.
À la base de cette tentative, c'est la mort de l'un des leurs la nuit du 30 au 31 mars. Mais nous avons pu constater à l'intérieur de la prison deux blessés parmi les prisonniers. Il est pourtant aussi vrai que la plupart des pensionnés présentent des signes qui vont vers la malnutrition. C'est une preuve ordinaires qui ne bénéficient presque pas régulièrement de leur repas ordinaire, mais ce sont des citoyens et ils ont droit à la vie.
Notons qu'à la suite de ces événements, le gouverneur intérimaire a fait une descente à la prison de Kindu et ordonné l'évacuation du prisonnier malade. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'armée malienne affirme avoir tué 203 combattants de groupes armés terroristes lors d'une opération dans une zone sahélienne du centre du Mali, menée du 23 au 31 mars. Cette opération de grande envergure qui s'est tenue dans la zone de Moura, à 17 km au nord-ouest de Kouakdjourou, dans le cercle de Djéné, a permis d'abattre 203 combattants de groupes armés terroristes, outre l'interpellation de 51 personnes et la récupération d'importantes quantités d'armes et des munitions, indique l'armée dans son communiqué. Will Smith a décidé de démissionner de l'Académie des Oscars après la gifle qu'il a assénée à l'humoriste Chris Rock en pleine cérémonie de remise des prix, a-t-il annoncé dans un communiqué. La liste de ceux que j'ai blessés est longue et comprend Chris, sa famille, nombre de mes amis chers et mes proches, tous ceux qui étaient dans le public ou chez eux, écrit Will Smith dans ce texte diffusé par un magazine. Je démissionne de mon poste de membre de l'Académie des arts et sciences du cinéma et j'accepterai toutes les conséquences que le conseil d'administration estimera appropriées, assure l'acteur de 53 ans.
L'invité.
Notre invité, c'est Dr Olive Ambamboula, présidente de l'Association des femmes médecins du Maniema, AFEMOMA, qui nous parle du bilan des activités de son association durant le mois de la femme. Plus de 1000 femmes et jeunes filles ont été sensibilisées par cette association sur l'hygiène menstruelle, les conséquences des avortements clandestins, les complications des infections sexuellement transmissibles et l'hygiène bucco-dentaire. Dr Olive Ambamboula, entretien avec Florence Kiza.
Bonjour, docteur Olive Ambamboula.
Bonjour.
Mois de mars, mois dédié aux droits de la femme, touche à sa fin. Qu'est-ce que la population peut connaître des activités que votre association a menées durant cette période?
Effectivement, l'Association des femmes médecins œuvrant au Maniema, la FEMOMA, nous venons de clôturer le mois de mars et le mois dédié à la femme. C'était un mois riche en événements dans notre association, car nous avons eu à réaliser beaucoup d'activités, et parmi lesquelles il y avait la sensibilisation des jeunes filles et mères dans des différentes écoles et à l'église. Il y avait même un match qui était organisé pour les femmes médecins évrants au Maniema contre les épouses des médecins. Donc, il y a eu au moins 1000 élèves qui étaient sensibilisés concernant ce sujet-là. Et nous étions appuyés par l'INFPA, qui est notre partenaire, avec les bandes hygiéniques. Nous avons distribué à toutes les filles pour leur préparation. Et nous étions à l'église méthodiste au centre Lina, où nous avons sensibilisé plus de 100 femmes sur les cancers gynécologiques. Alors, il fallait qu'on sensibilise les jeunes filles, parce que l'égalité des sexes, ce ne dit pas seulement la parité, mais c'est l'égalité d'échange entre l'homme et la femme. La femme doit être en bonne santé pour réaliser de grandes réalisations.
Nous venons de suivre les statistiques. Votre association s'est fixée combien de personnes à sensibiliser? Est-ce que vous avez atteint l'objectif?
Nous nous sommes dit qu'il fallait sensibiliser au moins 1000 femmes ou jeunes filles, mais nous sommes allés à 1150 et la demande est encore grande. On n'a pas encore fini, donc on pourra encore continuer à sensibiliser les jeunes filles au niveau de notre province et dans des différentes écoles.
En les sensibilisant, bien sûr, quel a été l'engagement de ces jeunes filles et mamans?
L'impression qu'on avait eue, les jeunes filles étaient vraiment très très contentes, étant donné que beaucoup d'entre elles ne connaissaient même pas leur cycle menstruel. Et nous leur avons expliqué à quel moment la femme est susceptible d'avoir une grossesse, comment calculer leur cycle menstruel, comment se comporter pendant le moment des règles, quelle est la place de la femme dans la société. De l'autre côté, les mamans qui étaient au centre Lina étaient aussi très 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 heureuses, parce qu'elles ne savaient pas que le cancer existait. Pour elles, c'était vraiment un moment sort. Et elles appelaient ça comme étant kilondatumbu, tout ça. Et pourtant, les cancers existaient. Elles étaient contentes de savoir quelles sont les causes des cancers, comment il faut éviter et qu'est-ce qu'elles doivent faire lorsque nous allons encore lancer la séance de sensibilisation et de dépistage des cancers prochainement.
Après cette sensibilisation, vous vous attendez à quoi?
Pour les filles, nous attendons que les filles puissent vraiment se mettre à étudier. Parce que beaucoup d'entre elles arrêtent leurs études à cause des grossesses. Et de deux, il y a d'autres qui vont se faire avorter. Et par conséquent, il y a toujours des grands dégâts. Et là, nous savons que beaucoup de filles vont maintenant bien se comporter et les risques des avortements, des infections ne seront plus là.
Vous êtes dit domaine, docteur. Avant cette sensibilisation, est-ce que vous enregistrez des plantes en ce sens dans vos différentes structures sanitaires?
Effectivement, il y avait beaucoup de problèmes. Concernant d'abord le problème des cycles menstruels, beaucoup de filles venaient consulter pour des troubles de cycle. Elles ne comprenaient pas et pourtant il n'y avait rien comme problème. C'était juste l'ignorance et le manque de communication. Ça c'est un. De deux, il y a d'autres qui venaient pour des avortements, mais au début elles étaient en train de cacher. Alors il fallait qu'on puisse leur parler aussi des conséquences de ces avortements. Pour les mamans, nous avons constaté que beaucoup de mères viennent nous consulter en retard lorsque le cancer a déjà pris un stade très avancé. Alors il fallait leur préparer quels sont les signes d'appel qui peuvent les orienter pour aller consulter. Ce sont des cas que nous avons vraiment eu pendant notre moment de consultation.
Vous avez clôturé vos activités. Est-ce que vous pouvez avoir un message particulier à adresser à la population?
Merci beaucoup. Nous clôturons le mois de la femme aujourd'hui. Nous voulons dire que souvent la femme est stigmatisée, la femme est considérée comme étant un être faible. Ce n'est pas le cas. Être une femme ne dit pas qu'on est faible, mais une femme, c'est celle qui a la possibilité de faire de grandes choses, d'occuper de grands postes de responsabilité comme les hommes. Donc nous devons vraiment sensibiliser nos parents à mettre beaucoup d'argent pour faire étudier leurs filles. Pour souvent, les parents disent que chez la fille, je n'aurai rien, je dois vraiment soutenir l'homme parce que c'est l'homme qui peut faire quelque chose. Ce n'est pas le cas. Donnons la chance aussi à nos jeunes filles de progresser dans les études pour qu'un jour, qu'elles puissent aussi occuper de grandes responsabilités.
Docteur Olivier Mamboula, merci.
Merci beaucoup.
C'est sur cet appel de Dr. Olive Mbamboula que nous mettons un terme à ce journal coordonné par Noëlla Luzitu Kabambi et Pierrot Elameji. Jean-Claude Tiala à la mise en onde. Merci de l'avoir suivi.